Bien, alors, on va reprendre le Midrash, mais auparavant, j'ai pas trouvé un Midrash qui traite de façon, pour l'instant, continue ce qui m'intéressait. Je vais d'abord faire on va voir ce soir, peut-être encore la semaine prochaine, le sujet qui m'intéresse, il est un peu dispersé, donc j'ai pas encore trouvé à le concentrer sur un seul Midrash. Dans la préparation pour Pessah, on a parlé de la Torah de Rabbi Akiva, la spécificité de cette Torah de Rabbi Akiva qui était différente de la Torah, enfin, par rapport à la Torah de Moshe Rabbeinu. Et puis, à la fin de la fameuse Gemara qu'on reverra, qui parle de Rabbi Akiva, vous vous souvenez, c'est Moshe Rabbeinu qui vient à l'école de Rabbi Akiva, qui s'assied, qui comprend rien du tout, jusqu'à ce que Rabbi Akiva réponde à un élève que la question qu'il lui a posée, il lui répond à la halakha de Moshe Missinaï, et du coup, Moshe Rabbeinu est rasséréné. Alors je voulais essayer de voir si on peut clarifier un petit peu aussi cette notion de halakha de Moshe Missinaï. Qu'est-ce que c'est exactement cette halakha? Le Moshe Missinaï. Qu'est-ce que c'est le statut à part de ces halakhot qui sont pas écrites, mais qui sont indiscutables sur lesquelles qui sont pas des halakhot comme les autres halakhot où on peut discuter, où celui-là il pense comme ceci et celui-là il pense comme cela. Tout le monde, il y a un consensus obligatoire, comme il y a un consensus sur le texte de la Torah. Alors on va voir ça, mais pour commencer. Comme c'est lié au don de la Torah, puisqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu, alors on va d'abord voir un tout petit peu un point classique qu'on a déjà vu à nombreuses reprises, mais peut-être un éclairage un petit peu différent. À Shavuot, qui est le Anchek Nestagdola, les rédacteurs des prières en fait que nous avons, gens de la Grande Assemblée, ils ont fixé la formule dans la Amida et aussi un petit peu aussi dans Birkat Hamazon, etc. Dans la Amida, nous disons Vatitel lanu Hashem Elokeinu, etc. Et yom chag haShavuot haze zman matan Toratenu. Tu nous as donné Hashem Elokeinu cette fête de Shavuot qui est le temps du don de notre Torah. On a déjà fréquemment parlé de ça. C'est pas ça qui aurait dû être écrit. On aurait dû non pas dire le temps du don de notre Torah, mais Zman Kabbalat Toratenu. Le temps de la réception de notre Torah. De notre point de vue, c'est le problème qui se posait, c'était la réception de la Torah, c'était pas le problème du don. À part ça, qu'en se fait-il? Il faut aussi s'interroger sur le fait qu'il y ait un Yom Tov, un jour de fête, donc, qui semble lié au fait que c'est Zman Matan Toratenu. Matan Toratenu, c'était un moment absolument terrible et terrifiant d'une certaine manière, lorsque les Israël au Sinaï ont reçu les fameuses deux couronnes, parce qu'ils avaient dit Naasev et Nishma, ils ont reçu deux couronnes. Et il fallait aussi, il y avait aussi après 40 jours, on allait recevoir les premières louchot, 40 jours. Seulement après la faute du Hegel, après la faute du, bonsoir, la faute du Vaudan, on a perdu les couronnes en question, les couronnes qui correspondaient à Anasé et Nishma. Les premières louchotes, les premières tables ont été détruites. Et du coup, notre lien avec ce Matan Torah, il n'est là que à travers les deuxièmes louchotes, après qu'on ait obtenu le pardon du Hegel. Certaines manières, on a obtenu ce pardon pour la faute du veau d'or. Et du coup, ce fameux jour, dont Chazal dit, c'est Yom Chatunatenu, c'est le jour de notre mariage avec Hachem, si on veut, par le biais des Louchot, ce jour-là, pour nous, c'est Kippour. C'est-à-dire Yom Kabbalat Toratenu effectif, c'est le moment où on a reçu les deuxièmes tables, c'est Kippour. C'est à Kippour qu'on a reçu les deuxièmes tables. Donc notre lien, le Yom Tov, aujourd'hui pour nous, après le Chetta Egel, après la brisure des tables, après qu'on ait perdu les couronnes qu'on avait reçues à cause de Naaseh V'Nishma, nous, notre Matan Torah à nous, enfin notre Kabbalat à Torah à nous, c'est quand on a reçu les deuxièmes Luchot, ou avec le pardon d'Hachem, et c'est à Yom Kippour que c'est arrivé. A priori, puisqu'on compare le moment du don de la Torah à un mariage, le mariage qui a eu lieu au moment du Sinaï, c'est-à-dire au premier moment, ce mariage, il est devenu, comment il faut dire, caduc. Il a été brisé. A priori. Alors, bien sûr, après la faute du Hegel, on n'a pas perdu les mitzvot de la Torah. C'est vrai. Mais ce qu'on a perdu, c'est le haut niveau de Torah auquel on avait accédé, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, on avait dit qu'en fait, pour entendre Moshe Rabbeinu à ce moment-là, quasiment tout le monde était devenu prophète. La fête de Shavuot, elle n'est pas là parce que des mitzvot seulement. Le moment extraordinaire, le fait qu'on ait dès lors régulièrement un rendez-vous avec Hachem à ce moment-là, il vient du fait que il y a Torah dans le monde. Il y a eu la Torah a été donnée, elle a été révélée, si vous voulez. Il y a une révélation, il y a de la Torah dans le monde. Et donc il faut comprendre pourquoi ce Chag HaShavuot est fixé comme un Yom Tov pour toutes les générations, bien que on ait perdu ce niveau spécifique pour lequel ce niveau de Shavuot, le niveau qu'on avait à ce moment-là, qu'on a perdu les couronnes et on a perdu les fameuses tables de la loi, les premières. Donc c'est vrai qu'il est resté quelque chose, mais le Yom Tov, il n'est pas là à cause de ça. Donc comment se fait-il qu'on ait un Yom Tov de Shavuot, Zman, Matan, Toratino? On ne comprend rien du tout. Dans le Midrash Tanhuma, dans Parashat Chukat, le Midrash parle de la Torah de Rabbi Akiva. Et il dit que des dvarim shelo, des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu, ont été dévoilées, dit le Midrash, à Rabbi Akiva vechaverav, à Rabbi Akiva et à ses collègues. Alors c'est un peu de ça qu'on a un peu parlé. Mais il s'agit de comprendre comment est-ce que c'est possible. Que Rabbi Akiva dévoile de la Torah que Moshe Rabbeinu n'a pas descendu du ciel, si on peut parler comme ça. Il n'est pas monté au ciel, Rabbi Akiva, que je sache. Donc si Moshe Rabbeinu n'a pas descendu cette Torah, si à travers Moshe cette Torah n'est pas descendue dans le monde, comment se fait-il que Rabbi Akiva y ait accès? Dans la Gemara, dans Maseret Menachot, la Gemara nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Matsao la Kadosh Baruch Hu shi yoshev ve kosher ktarim la otiot. Connaissez, il est arrivé et Akadosh Baruch Hu était en train d'attacher des petites couronnes aux lettres. C'est ces fameuses petites couronnes qu'il y a sur certaines lettres du Sefer Torah. Amar lefanav, c'est le Mara là, on l'a vu. Ribono shel olam mi me'akev al yadcha. Qui t'empêche? Et Rashi explique. En quelque sorte, pourquoi faut-il que tu ne puisses pas encore donner la Torah et qu'il faille que tu y attaches aux lettres encore des couronnes? Qui t'oblige à... Pourquoi il faut que tu attaches des couronnes aux lettres? Alors c'est là qu'Hachem lui a répondu, Adam Echad, Yesh, il existe un homme, Shatid Liyot Besof Kamadorot, qui vivra au bout de certain nombre de générations, Akiva Ben Yosef Shemo, il s'appelle Akiva Ben Yosef, Shatid Lidrosh Al Kol Kotz Vekotz, Shatid Liyot Besof, pardon, Tiletilim Shel Alachot, il y a cet homme-là, Akiva Ben Yosef, qui va être Doresh. Sur chaque côte, c'est-à-dire sur chaque trait, pas seulement sur chaque couronne. Les couronnes, elles sont composées de trois traits, les petites couronnes sur les lettres. Sur chacun des traits, il va être d'Oresh, des montagnes d'Alachot. Alors, vous connaissez la suite. Amar le Fanav, Ribono Sholam, Réouli. Il a demandé à Hachem, montre-le-moi, cet homme. Amar lo chazor la chorecha, il a dit retourne en arrière. Alach veyashav besof shmona shurot. Moshe Rabbeinu a reculé de 8 mirans. Et il a entendu la Torah de Rabbi Akiva. Velo haya yodea man hen omrim. Il ne savait pas ce qu'il racontait. Il entendait Rabbi Akiva, il comprenait rien. Tachash kocho, il s'est senti mal. Moshe Rabbeinu s'est senti mal. Alors Kivan Sheigia le Davar Echad, Rabbi Akiva en est arrivé à un point de son exposé. Amrulo Talmidav, les élèves l'ont interrogé, l'ont dit, Rabbi, minayin lecha, d'où est-ce que tu tires ce que tu nous dis là? Amar lehem, alakha le Moshe mi Sinai. Une alakha qui a été donnée à Moshe et au Sinai. L'itershva d'Arto. Moshe Rabbeinu s'est ressenti bien. Ça veut dire que même ce que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas fait partie de l'alakha le Moshe mi Sinai. Ça veut dire, on dit. C'est clairement dit, c'est Halakha, le Moshe Mitsinaï et Moshe Rabbeinu n'y comprend rien. Comment c'est possible? C'est une Halakha qui a passé par lui, il n'y comprend rien. La fameuse Gemara de Shabbat qui parle de matin de Torah, d'après là-bas. La Gemara, elle discute là-bas. Elle nous dit, vous savez, tout le monde le sait ça je crois, Akadosh Baruch Hu avait dit au Bnei Israël, vous allez vous préparer à Yom ou Machar. Aujourd'hui et demain, vous allez vous préparer pour recevoir la Torah, vous allez veiller à être en état de pureté, vous allez vous séparer de vos femmes, etc. Vous purifier. Et donc ça, c'était d'après le calendrier d'Hachem. C'est-à-dire, il leur a dit ça, et du coup, ils auraient été prêts pour le 50e jour. Le 50e jour, à 49 plus 1, 50e jour, recevoir la Torah. Et la Gemara rapporte que Moshe Rabbeinu a décidé d'ajouter un jour de préparation supplémentaire. Ben c'est l'habitude, comme ça, les Juifs, ils sont comme ça. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu dans son agenda de donner la Torah le 50e jour. Moshe Rabbeinu a dit, ok, écoute, il faut que tu remettes ça, hein, ça ne nous convient pas, nous, on sera libre le 51. Donc, changement d'agenda. Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. En soi, c'est un peu surprenant quand même, parce que si Hachem dit qu'on est prêt au bout de deux jours, qu'est-ce qu'ils... Ils étaient prêts au bout de deux jours d'après Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repassé un coup. Encore un coup de peinture supplémentaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait puisqu'ils étaient prêts au bout de deux jours? Hachem a dit au bout de deux jours, vous serez prêts. Ils ont fait ce qu'Hachem a dit. Moshe Rabbeinu l'ajoute un jour. Du coup, la Torah a été donnée le 51e jour de la Sphira. Le Maharal, quand il fait Israël, il explique que c'est là que réside le fondement de la Kabbalat HaTorah, parce que la Metziout de la Torah, elle dépend des récepteurs. Ce qu'est la Torah, ça dépend de ceux qui la reçoivent. Amekablim, ceux qui la reçoivent. Et bien que la Torah, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, était prête à être donnée le 50e jour. Mais les Mekablim, les récepteurs de la Torah, eux, ils avaient besoin d'un jour supplémentaire. En tout cas, Moshe Rabbeinu a jugé qu'on avait besoin d'un jour supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, enfin Chazal disent, Rachid rapporte, que le dévoilement qui a eu lieu à Matan Torah, c'est de l'ordre du Khatan qui vient à la rencontre de la Kala. Donc Hachem s'est dévoilé comme Khatan, comme le Khatan qui vient à la rencontre de la Kala. C'est comme si on disait que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sous la forme de celui qui donne, qui est Mashpia, qui comme le Khatan qui va donner dans le couple, ça lui a donné. On sait que dans la procédure de Kiddushin, tout doit être fait par l'homme. Ça ne peut pas être fait par la femme. Ce n'est pas la femme qui est active dans les Kiddushin. Dans les Kiddushin, c'est l'homme qui doit donner. C'est l'homme qui doit faire le processus, c'est l'homme qui doit dire, c'est l'homme qui doit donner. C'est lui qui doit dire « Areat Mekoudeshet ». Elle ne peut pas dire « Ani Mekoudeshet Lecha ». La femme, elle pourrait aussi bien dire « Je te suis sanctifié, Kedat Moshe Israël. » Comme l'homme lui dit « Areat Mekoudeshet Li », elle pourrait dire « Je te suis sanctifié, Areani Mekoudeshet Lecha, Kedat Moshe Israël. » Ça ne marche pas. C'est marqué qui yikach ish, quand un homme prend une femme, et pas qui tikach, que c'est la femme qui prend. Et donc, dans ce mariage qu'a été le Matan Torah, les Bnei Israël ne se sont pas, en réalité, positionnés comme une Kala qui reçoit le Kesef Kiddushin, qui reçoit la bague. Sans être partie prenante du tout au don. La preuve, c'est que Chazal disent, à plusieurs endroits, que le Matan Torah est composé, est comparé, si vous voulez, à un mariage, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est le clan Israël qui était le Khatan, si vous voulez. Marqué, le Nefesh HaRaim le rapporte, marqué dans Chazal, dans le Passouk, le Navi, Yeshayahu dit, « Va'asim dvaray beficha, je mettrai mes paroles dans ta bouche, b'sel yadi siticha, et à l'ombre, et par l'ombre de ma main je t'ai couvert, l'intoa shamaim v'lisod aretz, pour étendre les cieux et fonder la terre, et pour dire à Tzion, tu es mon peuple. Ça, c'est ce que dit le Navi. Tu es mon peuple. Amiata. Et Chazal vient et là-dessus, ils disent, il ne faut pas lire Amiata. Al tikre Amiata. Et là, Imiata. Avec moi, tu es, littéralement. Donc, on voit que au moins dans cette description, ici on parle de la description de Matan Torah, ils sont sur les deux imi, sur le même plan. C'est pas renversé, mais ils sont sur le même plan, imi. De la même manière, dans les psukim de Shir HaShirim qui parlent de ça, le clan Israël est appelé par Hachem Rayati, mon ami. Comme une kala. Mais elle est aussi appelée achoti. Et comme dit Chazal, elle est même appelée imi. Ou Akadosh Baruch Hu appelle le clan Israël ma mère. Comme Chazal dit, lozaz ad mechavevatan ad shekaran imi. Et sur Rayati, Chazal disent Rayati mefarnesati. Celle qui me nourrit. C'est-à-dire le clan Israël apparaît comme nourrissant que Vayachol HaKadosh Baruch Hu. Et donc on voit que le couple HaKadosh Baruch Hu Israël, il est présenté certaines fois exactement à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement la chose suivante. On avait vu ça avant Pessah, que dans le Zohar, Moshe Rabbeinu est plusieurs endroits. Moshe Rabbeinu est appelé Baala de Matronita. Il est le mari de la Matronita. Ça veut dire Baala de Shrina. Le maître de le mari de la Shrina. Donc, c'est Moshe Rabbeinu qui est en position de mari par rapport à celui qui donne la Torah, si on peut parler comme ça. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu était en quelque sorte le maître du Matan Torah. Non? Puisque c'est lui le maître, Bala de Matronita et Bala de Shrinta. Il apparaît comme le maître dans le Matan Torah, comme dominant, si on veut. Alors que dans le Yerushalmi, Maseret Shkalim, le Yerushalmi dit sur le pasuk qui dit Ulechol Ayad Achazaka, le Yerushalmi dit chez Moshe Rabbeinu Tafas Aluchot Miyado Shel HaKadosh Baruch Hu Kiveyachol. Le Yerushalmi dit que Moshe Rabbeinu a saisi, il a enlevé quasiment les Luchot Kiveyachol des mains d'HaKadosh Baruch Hu. Comment il a fait pour les briser ici? Dans, traditionnellement, on dit que dans les Luchot, Moshe Rabbeinu était d'un côté, HaKadosh Baruch Hu était d'un côté, il y avait une partie équivalente qui était libre au milieu. Et Moshe Rabbeinu ne peut pas passer les Luchot si Hachem les tient de l'autre côté. Il a donc fallu que les Yerushalmi dit, il a fallu que Moshe Rabbeinu arrache littéralement les Luchot d'Hachem pour pouvoir les casser. Et le Maharal, dans l'Ensar Israël, là-dessus, le Maharal explique qu'est-ce qui se joue là. C'est que le rapport de Moshe Rabbeinu à la Torah était tel qu'il était le maître du don de la Torah. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu était le mekabel de la Torah, il recevait la Torah, et si la Torah, en fait, n'est pas donnée par Moshe Rabbeinu, alors on n'existe pas s'il est autrement que comme celui par lequel la Torah est donnée, et donc tout dépend de la réalité, si on veut, de Moshe Rabbeinu. Dans la mesure où Moshe Rabbeinu est une vraie metziout, une vraie réalité, alors la Torah va être reçue. Elle est reçue juste exactement à cet auteur-là, puisque c'est lui le récepteur. Donc tout don est réception d'un cadeau. Quand un cadeau qui circule, ou un objet qui circule, celui qui donne, c'est lui qui a priori décide, je donne ou je ne donne pas. Mais ici, Moshe Rabbeinu comme Mekabel, Moshe Rabbeinu qui est celui qui reçoit, il est à ce point proche de celui qui donne que il n'était pas possible de ne pas recevoir, il ne lui était pas possible de ne pas recevoir la Torah. Et il n'était pas possible qu'un homme, un être humain, existe dans le monde si un homme qui est à la fois cette proximité avec Hachem, si ce n'est par le biais de la Torah. On ne peut pas exister, être tellement proche d'Hachem, si ce n'est par le biais de la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu pouvait, en quelque sorte, décider du don de la Torah. Quand est-ce que la Torah va être donnée? Il était en position de décider quand la Torah serait donnée. C'est ça que le Maharal veut dire, enfin, ce que Chazal veut dire, tel que le Maharal le dit. Moshe Rabbeinu est tellement proche d'Hachem qu'il est presque il est le maître du don lui-même. Pas parce que c'est lui qui donne, mais parce qu'il a une telle proximité avec celui qui donne, et il est quasiment, comme on avait vu avant ça, il est la Torah, Moshe Rabbeinu. Là, c'est l'explication. On dit que Moshe Rabbeinu a arraché la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que grâce à Moshe Rabbeinu, le monde d'en bas s'est rattaché au monde d'en haut à tel point qui est une unité en fait complète. Et du coup, la Torah devait descendre parce que, en quelque sorte, elle était sur le même plan en haut et en bas. Il y a une telle unité, une telle. On pouvait pas. C'est pas qu'il y avait. Il fallait l'enlever du monde d'en haut pour la donner dans un autre monde. Grâce à mon cher Rabbeinu, il y avait un lien complet entre le haut et le bas. C'est comme ça qu'on peut entendre ce qui est dit sur mon cher Rabbeinu, qu'il était Baala de Shrinta, il est le mari, l'époux, le maître de la Shrina. Ça veut dire que le lien entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu, par l'entremise de mon cher Rabbeinu, passait par le fait et le maître de la Torah, au sens où Moshe Rabbeinu, en fait, a forcé, il obligeait, si vous parlez comme ça, la Torah à être à la fois donnée et à la fois reçue. C'est ça, Rayati Mefarnesati, mon ami qui me nourrit. Elle n'était pas seulement Clarisse, elle n'est pas seulement la Kala qui est du côté de la Kabbalah, qui est du côté de la réception. Le Klal Israël a un rapport à la Torah, hein, au sens où il est obligatoire de la redonner, de donner cette Torah au Klal Israël. Si elle n'était que Kala, la Kala, elle n'est pas en situation d'obliger le Khatan à donner. Comme dans le cas des Kiddushin. Yikach, ça dépend du Baal, ça dépend du mari. On a aussi besoin qu'elle soit d'accord, mais ultimement, ça dépend du mari. Ça veut dire que les Bnei Israël sont montés à ce moment-là à un niveau où, si on a le droit de s'exprimer ainsi, ils ont obligé Hachem à leur donner la Torah. Obligé celui qui donne de leur donner. Et donc, me câbler à Torah, ceux qui reçoivent la Torah, veut dire ici que les Bnei Israël sont associés à la Torah de telle sorte qu'ils soient eux aussi les maîtres de la Torah. Ils ne sont pas simplement quelque sorte la main dans laquelle la Torah va être déposée, aussi partie prenante au don lui-même. Si on faisait les kiddushin comme ça, les kiddushin ne seraient pas bons. Parce que la femme serait trop partie prenante au don. Mais oui, mais d'une manière, ce sujet de Avodat Sorer Gvoa, ça existe. Que la Avodat Hashem, elle est Sorer Gvoa, elle est une nécessité pour en haut, c'est un sujet sur lequel il y a à parler, mais c'est comme ça.
Le Rambam, dans le TTC, il fait tout un développement, il ramène un Chachamda, un Chachamdala. Et tu crois que toi, ce que tu fais, ils considèrent que c'est une erreur de penser, puisque les gens pensent que quand c'est rare qu'on croit, que la aura où ça arrive, etc. Il est très marré là-dessus en disant que le terme des misères, c'est pour l'homme et pas pour Dieu.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que quand on dit de soi, de voir, ça se présente comme si Hachem en avait un besoin, mais tout le monde sait qu'Hachem n'a besoin de rien. Mais la Avoda, elle a été arrangée de telle sorte qu'elle apparaisse comme un tsorer gvoa. Bien sûr qu'Hachem n'a pas besoin. Mais il met le Klal Israël dans une posture où le Klal Israël est en situation de nourrir, c'est marqué de korban ilachmi. Mon korban, ma nourriture, mon pain, korban tamid, korban ilachmi, c'est mon pain, c'est considéré comme mon pain. C'est bien sûr qu'il ne faut pas, tu as parfaitement raison de le faire remarquer, ne vous imaginez pas qu'Hachem a besoin de quoi que ce soit. Moins les choses se présentent comme si, du point de vue du clan Israël. Le clan Israël doit donner comme si Hachem en avait besoin, tout en sachant pertinemment qu'on n'en a pas besoin. C'est pas loin, si vous voulez, du fameux chidouche de Rambam de Vologine que je ressasse tout le temps. Rambam de Vologine dit Dama le ma'ala mimcha, Pirkei Avot, c'est sache ce qui est, donc on traduit l'ordinaire, sache ce qui est au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend, etc. Le Prime dit Da ma'ala ma'ala mimcha, sache que tout ce qui est en haut, ça vient de toi. C'est le Prime de Vologine. D'accord, tout ce qui est en haut, c'est toi qui le construis. C'est énorme ce qu'il a dit là. Ça, c'est le problème de Vologine. C'est le Talmid du Gaon. C'est sûr que si on le lisait mal, on dirait qu'il n'existe rien du tout, c'est une illusion. Il y a un en haut, mais c'est toi qui le fais, donc où il est Hachem là-dedans. Hachem, il est bien plus haut que ça, et il est partout quand même. C'est lui qui te donne la possibilité de jouer ce jeu-là. Il y a une mise en scène, alors voilà, tu apparais comme celui qui fait les choses. C'est pas une marionnette au sens... Mais bon, c'est mis en scène par Hachem. Et Hachem, le la'asot de la fin de Vayechulou, c'est pour laisser aux hommes la possibilité de faire. Alors, par contre, il a fini de créer le monde, puis on termine ce paragraphe par la asot. C'est-à-dire la asot, faire. Pour faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce qu'il y a à faire, c'est que j'ai bien tout fait. Ça veut dire, jusque-là, j'ai fait. Non, à vous. Et bien sûr qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit si Hachem ne nous y aide pas. On n'a pas la possibilité, on ne peut pas se garantir la fraction de seconde dans le futur. On ne peut pas imaginer qu'on va faire quelque chose sans Hachem, bien sûr. Il nous donne, même tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lui donne, on lui donne ce qui est à lui. La Gemara, elle dit, la Gemara dans Souka, elle compare, on parle là-bas dans Loula Pagazoul, un roi qui passe la frontière et qui paye les droits de douane. Alors ces sujets, ils lui disent à quoi tu joues, c'est tu prends d'une poche et tu mets dans l'autre. Non, je fais ça pour que tout le monde apprenne qu'il faut payer les droits de douane. Ce sont donc, comme dit le Maharal, les mekablim, ceux qui reçoivent la Torah, qui fixent le don de la Torah. Et ça s'exprime dans le fait que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. Pour qu'on voit bien que c'est du côté des récepteurs, des mekablim, que la décision se prend. Alors, ça s'exprime en disant Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. De sa propre initiative. Parce que s'il l'avait ajouté sur l'ordre d'Hachem, si les jours que Hachem à donner pour la préparation, ben on n'y est pour rien, on ne fait qu'obéir, c'est toujours Hachem. Mais il y a une dimension où les mekablim décident, comment ça se dit ça? Ben voilà, on a changé le temps, on a déplacé en fonction de ce que les hommes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, voulaient. Et ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire que les mekablim, c'est eux qui décident du don de la Torah? Ça veut dire qu'on a fixé ici l'ancrage, la source de toute la Torah chez Baal Peh. Toute la Torah chez Baal Peh, qui est la Torah orale, qui est le produit de la parole des hommes, inspirée, mais qui est le produit de la parole des hommes, il est là. Les hommes ont à voir, la Torah n'est pas quelque chose dont les hommes seraient absents, y compris dans son don. Les hommes ne sont pas par rapport à la Torah uniquement des consommateurs ou des récepteurs, ou même des obéissants. Ils sont impliqués dans le don de la Torah. C'est ça que, je me répète un peu, mais bon, c'est ça que c'est quand à la fin de sa vie, quand Moshe Rabbeinu il a fini d'écrire le Sefer Torah, il l'a donné au Shevet Lévi, la tribu de Lévi. Il a levé le bouclier de toutes les autres tribus qui disent, il n'est pas question. Pourquoi? Parce que sinon, demain, ils vont nous dire, la Torah, elle nous a été donnée à nous, la tribu de Lévi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, c'est pas marqué d'Aber el Bnei Lévi, c'est marqué d'Aber el Bnei Israël. Ça parle à tout Israël. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'ils croyaient? Même, ok, le Sefer Torah, même s'il est déposé dans la tribu de Lévi, mais il parle à tout Israël, ils pourront pas dire, c'est à nous que la Torah a été donnée. Et c'est pas ça que les gens ont dit à Moshe Rabbeinu, les tribus ont dit à Moshe Rabbeinu. Ils voulaient lui dire, c'est, tu déposes la Torah dans la tribu de Lévi, ça veut dire que c'est eux qui vont la développer. C'est eux qui vont la développer. À nous, ils nous donneront, ici on peut dire, le dalos de la Torah. Ils nous donneront le Shulchan Aruch. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut être partie prenante à l'élaboration du Shulchan Aruch. Nous, on veut fabriquer la Torah chez Baal Peh. À ce moment-là, mon cher Abbé nous dit, enfin, ça fait 40 ans que j'attends que vous compreniez quelque chose de la Torah. Enfin, vous avez compris quelque chose de la Torah. C'est là, dans toute l'histoire qui est décrite dans la Torah, on voit l'Ebné Israël, on nous donne des ordres, on fait, on se plaint, on pleure, on crie, on refuse, etc. Donc, ils sont simplement en réaction par rapport à quelque chose qu'il leur est donné. Enfin, je comprends, vous avez compris qu'il s'agit, que c'est pas ça la Torah du tout. La Torah, c'est quelque chose qui vous est donné pour que vous la développiez, pour fabriquer la Torah chez Baal Peh, la Torah chez Bichtav, à partir de laquelle vous allez pouvoir fabriquer la Torah chez Baal Peh. Peut-être que ce à partir il est faux, et en même temps je vous donne la Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire vous allez le développer. Il y a une partie de Torah que vous allez développer. Vous allez ancrer ça dans la Torah chez Bichtav, comme je dis d'habitude, mais c'est, vous allez la développer. C'est ce qu'on va voir là ensuite. Parce que le contenu de la Torah chez Baal Peh, c'est justement ce que les mekablim de la Torah sont mechadesh, ce qu'ils inventent, ce qu'ils dévoilent, ce à quoi ils accèdent, avec leur date, avec leur intelligence humaine. Et tout ça, ça devient Torah. Quand Rabbi Akiva réfléchit, et qu'il énonce quelque chose après réflexion, qu'il le fait discuter par tout le monde, eh bien, ça devient Torah. C'est le produit des hommes. C'est la Torah d'Hachem. Ça, c'est pas la Torah, c'est pas une sous-Torah ou un ajout ou un amendement ou quelque chose. C'est la Torah. Donc on voit bien que ce qu'est la Torah, c'est fixé par ceux qui la reçoivent. La fameuse Gemara qui dit qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que. On a demandé que. Non, on a demandé qu'est-ce qu'Hachem dit dans le ciel, dans telle situation. On a vu, Aviatar Beni dit comme ci, Ameir Beni dit comme ça, etc. C'est ça la Torah. La Torah qu'Hachem étudie à la Yeshiva Shel Mala, c'est la Torah. C'est quoi? C'est Aviatar, mon fils, dit comme ça, Rabbi Meir, mon fils, dit comme ça. C'est ça la Torah. Nefesh HaChaim l'explique, le Ktsot l'explique. C'est ça que ça veut dire que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. En d'autres termes, grâce au Mekablim, grâce à ceux qui reçoivent la Torah, il y a eu encore un jour supplémentaire de préparation à la Torah, de telle sorte que le monde d'en bas baisse la garde en quelque sorte, soit réceptif et qu'il soit plus au sens de, capable de recevoir et de produire la Torah. Et donc le dévoilement donc de la Torah chez Baal Peh, il vient de ce que le monde matériel dans lequel nous sommes devient Torah au sens où il devient comme quand on acquiert quelque chose, alors ça devient, ça appartient. En faisant un kinyan, alors on acquiert et on devient. Donc comme Moshe Rabbeinu a ajouté un jour supplémentaire, de telle sorte qu'il soit vraiment complètement prêt pour la Torah, il y a toute la profondeur de la Torah qui se dévoile. Et sans cela, cette Torah n'aurait pas pu exister dans le monde. Donc Moshe Rabbeinu, on a vu, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui reçoit et qui se... C'est cette chose... Le visage, il représente ce fameux visage, enfin celui qui reçoit et qui a ce rapport à Matan Torah, au don de la Torah, dans la mesure où il en est le maître, en fait. Il est le maître de ce don. Bien qu'il le reçoive, mais parce que, comme le Maharal l'a expliqué, c'est ceux qui la reçoivent, cette Torah, qui décident de la Torah, qui décident du don de la Torah. C'est-à-dire, grâce et par l'entremise de Moshe Rabbeinu, le clan Israël a à voir avec la Torah, avec une Torah qui est la même que celle, c'est la Torah du monde d'en haut. C'est pas qu'on a une sous-Torah, une Torah adaptée, etc. Puisque comme on a vu, quelle est la Torah qu'Hachem lui-même enseigne? C'est la Torah de Viatar, de Rabbi Meir, etc. Donc la Torah telle qu'elle était avant de descendre, elle est exactement la même, c'est ça l'idée, quand elle est descendue sur terre, parce que les Bnei Israël ont un lien tel avec la Torah que, en d'autres termes, on n'a pas eu besoin de la traduire. On n'a pas besoin de la leur rendre accessible. Et donc la Kabbalah de la Torah, elle est sans limite. Si la Torah nous avait été donnée de haut en bas, en quelque sorte, comme quand on donne quelque chose. Donc ce qui a été donné, on l'a, mais on n'a pas plus que ce qui a été donné. Mais puisque le clan Israël est devenu le maître dans le don de la Torah, ça veut dire que le clan Israël est branché, si vous voulez, sur la source de la Torah elle-même. c'est-à-dire la source infinie de la Torah. Et donc le don de la Torah, dans ces conditions-là, n'est pas le don de quelque chose de fini, de limité. Limité à ce qui a été donné concrètement. Ça veut dire, il y a le don de quelque chose d'illimité. Vous voyez arriver la chose, quoi, l'explication. On a normalement, le lien avec la Torah, qui est, ce qui est vraiment lié à la Torah, c'est, a priori, on aurait pu imaginer que c'est celui qui la donne. Mais maintenant, les Bnei Israël sont les maîtres, et donc ils sont liés à la source de la Torah, ils sont les maîtres de la Torah là-dedans. Et Moshe Rabbeinu, il est la Torah. Maintenant, on peut comprendre, ça on le voit arriver, qu'est-ce que c'est que cette Torah de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva dévoile des profondeurs dans la Torah qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Et bien que Moshe Rabbeinu ne sache pas ce que Rabbi Akiva raconte, néanmoins, ce que Rabbi Akiva raconte, ça s'appelle Torah de Moshe. Bien que lui-même, Moshe Rabbeinu, ne sache pas. Parce que Moshe Rabbeinu a dévoilé la possibilité d'avoir un lien avec la racine, avec la source de la Torah. Telle qu'elle est chez celui qui la donne, dans le monde d'en. Donc même ce qui n'a pas concrètement été reçu par les Bnei Israël, c'est-à-dire par Moshe Rabbeinu d'abord, est néanmoins inclus dans ce qui a été reçu. Que puisque on a vu que sans les Mekablim, sans ceux qui reçoivent, il n'y a pas de Torah, alors tout ce qu'il y a dans toute la Torah, y compris la Torah qui est dans la main de celui qui la donne, si on peut parler comme ça, eh bien, elle dépend, elle aussi, des mekablei à Torah. Elle dépend de ceux qui la reçoivent, cette Torah. Et donc, Rabbi Akiva dévoile quelque chose de Torah chez Baal Peh, qui est quelque chose, qui est lié avec celui qui donne la Torah et une partie de Torah qui n'a pas encore été dévoilée, eh bien, il continue, Rabbi Akiva de la sorte, il continue à dévoiler des pans de la Torah qui ne l'avaient pas été concrètement. D'après ce qu'on voit ici, que la Torah, de ce point de vue-là, il est nécessaire qu'elle soit reçue le Shabbat. On sait que Matan Torah, la Torah a été donnée Shabbat. Mais c'était nécessaire. Parce que les mitzvot et la Torah que nous comprenons, c'est en quelque sorte la Torah des jours de semaine, quoi. Mais la Torah qui est Me'en Olam Haba, la Torah qui est la Torah la plus élevée, elle correspond à Olam Haba. Or, Me'en Olam Haba, c'est Shabbat. Shabbat qui est Me'en Olam Haba. Donc la Torah qui correspond au Shabbat, elle correspond à, Chazal disent, que Erev Shabbat, c'est le temps de la préparation, ou le Machar, le Kabel Sraram. Et le lendemain, on reçoit le salaire. Donc, ce monde-ci, c'est le temps de la préparation, et Olam Haba, Machar, c'est le temps du salaire pour ce qui a été fait. Il est clair que le salaire d'un Tidlavo, donc la réalité de ce salaire qu'il y aura dans le Tidlavo, elle, c'est pas quelque chose qui est la résultante initialement une tolda, une résultante de l'accomplissement des mitzvot, mais au contraire, c'est parce qu'il y a cette réalité là du sera, c'est la lumière de la Torah. Alors là, Kadosh Baruch Hu a décidé que ce serait que ça, cette existence là, elle va fabriquer des processus d'obligation et des mitzvot qui vont entrer dans le fameux Ayom La Sotam, de telle sorte qu'on accède par ces processus à la racine. C'est-à-dire que le Olam Hazeh, il vient du Olam Haba et pas le Olam Haba du Olam Hazeh. Ce qu'on veut dire ici, c'est la chose suivante. C'est pas que il y a des mitzvot, et si on fait ces mitzvot, alors on accède à un salaire, et donc on va inventer un salaire consécutif hein, aux différentes mitzvot. C'est pas comme ça que ça se fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une réalité en haut, qui est Olam Haba, si vous voulez. Et parce qu'il y a Olam Haba, parce qu'il y a ce salaire-là, alors, si vous voulez, ce salaire lui-même, pour être salaire, si on peut parler comme ça, il va fabriquer un processus, il va y avoir un processus de fabrication plutôt, du chemin qui va y mener à ce salaire. Le salaire va donner, il va envoyer en quelque sorte un chemin, il va dérouler un chemin qui commence par la fin, qui commence par le but. C'est comme si vous dérouliez le tapis depuis l'intérieur de la maison sur l'escalier. Et c'est pas le tapis, on commence par l'escalier, il va mener à l'intérieur. Effectivement, une fois que le tapis sera déroulé de cette manière-là, on pourra marcher dessus et le suivre pour entrer dans la maison. Mais le tapis lui-même, il n'est que l'émanation, en quelque sorte, de l'intérieur. C'est comme si l'intérieur se projetait vers l'extérieur pour dire « venez ». Quand vous recevez quelqu'un, vous sortez à la rencontre de cette personne et vous l'amenez à l'intérieur. Donc, de l'intérieur, c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur pour permettre à l'extérieur d'entrer vers cet intérieur. C'est pas que, bon, moi je bouge pas, tu viens, c'est à toi d'inventer le chemin pour arriver jusqu'à moi. Non, tu n'as pas le chemin à inventer. Le chemin, je te le donne. Le chemin des mitzvot à faire, c'est le but qui envoie le chemin qui va permettre à l'homme de faire. Ce qu'il dit, le Olam Hazeh est une émanation du Olam Haba. Alors ça nous, on le vit comme un Olam Haba. Mais il est premier par rapport à Olam Hazeh. Peu ce que dit. Il faut ajouter un cran. D'habitude, on dit, ce n'est pas parce qu'on a des parents, qu'on a une mitzvah de kibud av va'em. C'est parce qu'il y a une mitzvah de kibud av va'em qu'on a des parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce qu'il y a le sahar qui s'appelle kibud av va'em, sahar de kibud av va'em, qu'on a des parents pour qu'on puisse accéder à ce salaire. C'est le monde à l'envers de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais c'est bien clair que les choses viennent d'en haut, elles viennent pas d'en bas. Elles viennent d'en haut, c'est-à-dire que Hachem a créé un monde et il nous a offert la possibilité d'entrer dans ce monde et de monter. Et donc la Torah, elle est aussi comme ça. La Torah, elle est dans son état idéal, infini, etc. Et c'est cet état infini qui est descendu, qui envoie, disons, un chemin, envoie la Torah, et le chidouche, c'est qu'on est arrivé à faire en sorte que le chemin, il est vraiment la même Torah. C'est pas que il y a un chemin qui mène à la Torah. Le chemin, c'est la Torah. Le chemin, c'est la Torah.
Quand on dit que la Torah n'est pas formatée à l'homme, et que c'est l'homme, donc l'homme doit faire un effort pour y accéder, comment comprendre en fait que les Israël sont maîtres de la Torah, puisque cette Torah qu'ils reçoivent.
Mais pourquoi as-tu dit que la Torah n'est pas formatée à l'homme? L'homme est construit pour la Torah. L'homme est construit d'après la Torah. Istakel be'oraita ubara alma. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, donc l'homme, d'après la Torah. C'est toujours la même idée. C'est en cela que la. Si tu veux, je vais expliquer. L'explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais la Gemara dans Nida, qui dit que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il y a une lumière et qu'on lui apprend toute la Torah. Ensuite, quand il naît, on le frappe ici sur la bouche et il oublie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère? C'est pas que dans le ventre de sa mère, à la fin de la période au bout de 9 mois, juste avant de sortir dans le monde, il y a un malard qui vient et qui lui répète toute la Torah. Je pense pas que ce soit ça. Je crois que ce que ça veut dire, c'est que la Torah est le plan du monde. C'est donc le plan de l'homme. Et c'est comme si le plan de cette table, il est dessiné là, ici, par exemple, sur ce papier. Mais la Torah, elle ne fonctionne pas comme un plan qui serait dessiné à un certain endroit, puis ensuite on va construire un autre endroit. Le plan du monde est en quelque sorte comme la structure de base de l'embryon. C'est-à-dire la Torah, c'est la structure de base, et à chaque développement de l'embryon correspond, mais pas après coup, mais avant coup, si on peut parler comme ça. Il n'y a de développement de l'embryon que selon la Torah. Et donc, nous sommes, non pas, l'enfant, il apprend pas une Torah qui lui serait extérieure. La Torah, elle est constitutive de l'homme. Elle est sa structure intérieure, elle est sa structure. S'il existe une structure de l'homme, c'est la Torah. Alors, évidemment, elle va s'exprimer matériellement, plus ou moins de plus en plus matériellement, et puis, comme la Torah d'ailleurs, elle va s'enrichir. La Torah elle-même, et donc l'enfant va s'enrichir des apports extérieurs, il y aura toute l'exogamie, enfin, toute cette. Pardon, cette. Comment on dit tout l'ajout que la mère va apporter au au fur et à mesure de la, du développement. Tout ce développement-là va contribuer, évidemment. Donc, de toute sorte, cet homme-là, cet être humain va se construire selon la Torah, mais avec une aide, une composante qui est donnée par la mère, par les hommes, en quelque sorte. Eh bien, donc, c'est pas qu'il est formaté au sens où il avait une forme initiale, puis ensuite on l'a formaté comme on formate, d'accord, en lui faisant violence à l'homme pour qu'il s'adapte à la Torah. Il est naturellement adapté à la Torah. La Torah n'est pas quelque chose qui lui est extérieur. C'est pour ça que la Torah n'est pas une loi parfaite, qui serait formidable, mais qui serait de l'extérieur sur l'homme. C'est la loi intérieure de l'homme, c'est pour ça que accepter la Torah, ça n'est pas accepter quelque chose qui me ferait réellement violence. Puisque ce que j'accepte, c'est ma loi personnelle, ma loi intérieure. Alors il y a le Tserara qui fait qu'on n'a pas envie de l'accepter, etc., toutes sortes de raisons. Mais c'est ma loi intérieure. Quand Rambam dit que quand on le frappe jusqu'à ce qu'il dise Rotseani dans le guet, ça n'a pas de sens qu'il dit si tu ne dis pas que naturellement l'homme veut faire la Ratzon Hashem. Sinon, ce n'est pas parce qu'il va dire oui que ça n'a aucune valeur, ce oui. Il dit oui pour que les coups cessent. Mais ça, sous la torture, n'importe qui vous racontera n'importe quoi. Donc, donner des coups pour qu'il veuille bien donner le guet quand les Chazal ont décidé qu'il doit donner le guet, puisqu'on veut que ce soit de sa volonté, les coups sont là pour enlever la résistance, mais ce qu'on trouve au fond, c'est pas un oui pour que les coups s'arrêtent. C'est parce qu'on a touché le fond de la pensée de la pensée de cet homme. Au fond, il veut bien le donner, maintenant il a une sorte de raison, il ne veut pas apparaître comme ayant cédé, comme ayant été battu, vaincu, ou il veut qu'on lui donne ceci ou qu'on lui donne cela. Bon. Tout ça, ça vient par-dessus.
Et quand on dit qu'à la naissance, le bébé reçoit un coup,
il oublie. Simplement, il oublie, les choses sont en lui. Ce qu'il oublie, c'est que ça lui est plus... C'est comme si ça restait maintenant qu'à l'intérieur. Et d'une certaine façon, il va falloir qu'il l'apprenne. Mais ce qu'il apprend va entrer quasiment en résonance avec ce qu'il a en lui. La Torah parfaite, c'est quand la Torah apprise entre en résonance avec la Torah intérieure. À ce moment-là, on a l'effet maximum. On a un effet infini, justement. Comme dans une résonance qui se respecte.
Ça, c'est une miracle. Abraham, il a fait la Torah de ses mains.
Alors,
il a trouvé en lui.
Chez lui, c'est-à-dire, on a tous ça. Avraham Avinu, il a c'est pas qu'il a appris de ses reins. C'est marqué Klayot Yoatzot, c'est-à-dire les reins, c'est un filtre. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, un problème, en général, il vous vient tout un brouillard d'idées sur la question. Ça va tellement vite. Les idées que vous ne laissez même pas formuler, vous avez tout éliminé, ça c'est pas ça, c'est pareil. Pas. Puis après, il y a quelques idées qui restent, et puis ensuite vous allez faire le tri. Chez Avraham Avinu, ça se faisait. Ces reins triaient, et ils étaient capables de faire leur fonction. C'est le rein en fonction de tri. Sa fonction de tri, c'est ça, le filtre. Il filtrait jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. C'est marqué dans le Passouk. Rabot marchavot belev ish, vatsat Hashem hitakum. Il y a une multitude de pensées dans le cœur de l'homme, et donc, parmi toutes ces pensées, il y en a une qui s'appelle Atzat Hashem. Et c'est celle-là qui va se réaliser. À nous de la trouver. À nous de la trouver. Il y a cette fameuse leçon du Gaon qu'on ne comprend pas. D'accord. Où le Gan a dit que si quelqu'un, quand il réfléchit, il ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est une situation, il dit qu'il suffit qu'il étudie pendant quelques heures, et ensuite il réfléchit au problème, et la première idée qui lui vient, c'est la bonne. Je vous ai déjà raconté que Rabbi Yochanan Amir, le Mashgiach de Mir, il a dit « J'ai essayé, ça ne marche pas. » Et ensuite, il a fait chiot pour expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Et en gros, son explication, c'est de dire que le Gan, il est tellement imbibé de Torah qu'effectivement, quand il pense Torah. Mais il peut se trouver qu'il a été dérangé par quelque chose, il suffit qu'il étudie, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il retrouve son équilibre. Mais nous, on n'est pas imbibé de Torah à ce point-là, donc ça ne suffit pas d'étudier quelques heures pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que je l'ai déjà dit que si le Gaon a dit ça, et que ce n'est valable que pour lui, ce n'est pas très intéressant. Il ne va pas donner un enseignement qui marche que pour lui. Donc le Gaon a l'air de dire, si vraiment le Gaon a dit ça, je ne sais pas s'il a dit ça, mais si vraiment le Gaon a dit ça, alors l'explication, c'est ce qu'on dit là au nom de Rabbi Yochanan ne marche pas. Ça n'a pas de sens. On ne va pas dire un truc qui marche que pour lui, ce n'est pas intéressant. Si ça ne peut pas marcher pour les autres. Et dire que le Gaon ne se rendait pas compte que tout le monde n'était pas à ce niveau-là, à son niveau, c'est aussi prendre le Gaon pour un crétin. Il savait bien qui était qui, je veux dire.
C'est tout aussi intéressant que Midrash qui dit que Abraham a trouvé la Torah terre.
Il a ?
Moi je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire même si on n'est pas au niveau, c'est-à-dire qu'on...
Mais le Gan n'a pas dit ce qu'il faisait. Quand on dit Avraham Lamad, c'est nous, c'est pas. Bon, c'est la Torah qui nous dit Avraham, lui, il a appris comme ça. Parce que la question se pose d'où il le sait, puisqu'il a. Il n'a pas reçu la Torah, Avraham. Alors d'où il le sait? Ben, on ne peut pas savoir la Torah d'ailleurs que de lui-même. Mais le problème, c'est il faut montrer que quand on dit Yatzat Hashem Itakum, elle est dans les. Quand je réfléchis, et si je dis que Rabot Marchavot Ve'atzat Hashem Itakum, ça ne sert que si la Atzat Hashem, elle est dans les Marchavot que j'ai eues. Si elle n'est pas dedans, alors qu'est-ce qu'on veut de moi? Tout de même, je n'ai pas produit du tout, à aucun moment, cette Marchava. C'est la bonne pensée, la bonne. Si je suis incapable de la produire, je ne peux pas me demander quoi que ce soit. C'est qu'au fond, ça veut dire, je la produis, elle est là. Seulement, je ne suis pas capable de la déceler, peut-être que je l'ai éliminée à moitié formulée, parce que je suis trop idiot pour me rendre compte que c'est ça qu'il faut faire.
C'est-à-dire que si un homme, il avait vraiment l'honnêteté qu'il fallait.
L'honnêteté, ou non, est-ce qu'il était suffisamment imbibé de Torah
Il n'y arrive
pas. La réponse est dans la Torah, ou pas, d'après Gaon. Est-ce qu'on dirait que la réponse à son problème est la Torah, ou c'est la Torah qui va le porter à un état qui fait qu'il va être en...
Mais quand tu dis que, quand on dit qu'il est imbibé de Torah, ça veut dire, il faut se rendre compte que ces gens-là, il n'y avait que de la Torah.
Non, mais là, il y a une question, il n'a pas le particulier sur...
Donc, oui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire.
Mais
il faut... Mais c'est toujours de la Torah. C'est pas dans la Torah, c'est pas écrit obligatoirement dans la Torah. Mais c'est de la Torah, ça veut dire ça. Comment dire? C'est cette fameuse histoire de Ephraim Brisker qui s'est trompé. Il a oublié un Tosfot. On raconte qu'il a pleuré. Alors quelqu'un lui a dit, il ne faut quand même pas exagérer, tout le monde peut oublier un Tosfot. Et Ephraim a dit, je ne pleure pas du tout parce que je l'ai oublié, bien sûr qu'on peut oublier. Par parenthèse, il faut dire à Ephraim Brisker, il répétait 80 dapim par jour. Alors, quand il entrait au Beit HaMidrash, il se mettait comme ça contre un poteau. Il répétait 80 dapim, 80 pages de Gemara par jour. À part ce qu'il étudiait, mais il répétait comme ça 80 pages. Oui. 80 pages, c'est les macertotes ordinaires, qui sont un peu longues, mais pas les plus longues. C'est 80 pages. Il répétait ça. Donc, il répétait pas seulement, là, il répétait tout. Et il dit, mais je pleure parce que j'ai été capable de dire quelque chose qui est contre le Tosfot. Ça veut dire, il pense que Si j'étais vraiment imbibé de Torah, je n'aurais pas pu dire quelque chose qui était contre Tosfot. Je comprends pas très bien, parce que le Rajbo, ça existe aussi, il dit contre Tosfot aussi. Mais bon, il aurait dû dire comme ça, mais il y a un Tosfot qui dit autrement, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'il voulait dire. Et ça, vous avez, quand vous lisez, même si vous regardez Nefesh HaChaim, vous voyez que même, bon, il cite énormément de choses, mais même quand il ne cite pas, il cite. Et chez mon maître, c'était la même chose. Même quand il ne citait pas, il citait tout le temps. Ça ne prenait pas la forme d'une citation. Mais c'est tellement une partie d'eux-mêmes, quoi. C'est toujours des citations. Mais bon, ce n'est pas des gens qui ostensiblement citaient la Gemara, dit comme si. Ils disaient ça de temps en temps, mais quand ils répondaient, c'était construit d'après la Torah. C'était imbibé de Torah. Je ne sais pas, bon, je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je reprendrai la semaine prochaine. On a un peu répondu à ça et on doit revenir sur pourquoi Matan Torah Tenu. Zman Matan Torah Tenu. Et puis ensuite, à la Khal Moshe Missinaï, plus en détail. Je n'ai pas trouvé de midrash suivi sur la question. Ça doit exister, mais je ne l'ai pas trouvé. Et comme j'avais envie de travailler ça, je voulais imposer. Un rapport de force, quoi. Il n'y a personne de ce côté-là, j'ai profité.